vous inviter à lire avec moi quelques passages, et le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 5, et nous lirons du verset 1er au verset 9. Matthieu, chapitre 5, du verset 1er au verset 9. Vous avez trouvé Matthieu, chapitre 5, verset 1er ? Ça fait partie d'un texte qui nous ramène au premier sermon que Jésus a apporté. Et celui-ci est marqué par une introduction qui revient sur plusieurs versets. On a appelé ça les Béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. J'ai souhaité m'arrêter, mais je n'ai pas voulu couper le passage dans son entier. J'ai souhaité m'arrêter sur le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il y a un avantage certain, et cela nous pouvons vous l'affirmer cet après-midi, à avoir la foi. Un avantage certain, il n'y a aucun doute par rapport à cela. Parce qu'il y a un avantage certain à se confier en Dieu. Se confier dans les hommes, c'est toujours prendre le risque que l'homme qui est faillible se soit trompé ou est présumé de ses forces, de ses capacités, de ce qu'il pouvait promettre. Tandis que se confier en Dieu, c'est prendre la bonne direction, parce qu'il est évident qu'on trouvera, en s'approchant de Dieu, que son langage, c'est ce qui est dit dans ce passage, c'est la miséricorde, c'est la paix, c'est un héritage extraordinaire, la consolation, les exaucements et la satisfaction. Tout cela, nous le trouvons dans le programme de Dieu. Et ça reste un langage universel aujourd'hui. Ça reste un langage universel. Qui n'a pas besoin de paix? Qui n'a pas besoin? Qui n'a pas soif de justice? Vous avez soif de justice, j'imagine. À chaque fois qu'il y a des élections dans un pays, c'est la première chose que les gens demandent. De la justice. Regardez ce qui se passe au Venezuela, regardez ce qui se passe dans tant de pays où on fait un semblant de démocratie, mais en réalité, on impose bien souvent des règles très dures et très fermes, et très rapidement, les gens ressortent dans la rue parce qu'ils veulent de la justice. On veut tous de la justice. La justice, ça sous-entend qu'il y aura une part pour chacun et qu'il y aura une forme d'équité et d'équilibre pour tout le monde. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le message de l'Évangile, c'est que tout ce dont je viens de parler, de consolation, de paix, de satisfaction, de miséricorde, de consolation, bref, tout ce qui pourrait être un quotidien, quand on lit le message de l'Évangile, on s'aperçoit que c'est un possible accessible. Ça ne suffit pas, vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous croyez que oui, c'est possible? Et nous, on s'en va tout content en disant, ben, c'est chouette, il a dit que c'était possible. Il n'a pas dit qu'il allait le faire. Il a dit c'est possible. Il faut se méfier des formules et des mots. Hein. Tandis qu'avec Dieu, c'est possible, mais c'est accessible aussi. Si Dieu le dit, il le fera. Si Dieu le promet, ben, il exaucera votre prière et il vous bénira. C'est une certitude, ça, on peut en être complètement convaincu. Alors, j'ai presque envie de dire que ça, c'est un bon programme et c'est peut-être la promesse phare du meilleur programme jamais mis en œuvre. Vous vous posez des questions sur des programmes, mais là, vous en avez un bon. Là, il n'y a pas de problème, c'est un bon programme. C'est une évidence que faim et soif de justice, je crois qu'on en a tous besoin. Je me suis arrêté là-dessus parce qu'on va justement revenir sur un épisode qui nous parle de la faim et de la soif morale, de la faim et de la soif spirituelle, associée d'ailleurs souvent à une faim et une soif physique. Ce sont des enjeux vitaux, tout cela. On ne vit pas si on ne donne pas à notre corps ce dont il a besoin. Si le corps n'est pas nourri, il meurt. On ne vit pas si on ne donne pas à notre âme ce que notre âme a besoin. Sinon, elle déprimera, on finira par en mourir. Et on ne vivra pas, on ne survivra pas si on ne donne pas à notre être intérieur cette dimension spirituelle qui, là aussi, est une exigence de vie pour l'éternité. Sans cela, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de salut. Dans l'évangile de Luc, c'est ainsi que Jésus commence également son ministère. Vous connaissez également ces quelques mots, je vous les redis juste pour vous les remettre en mémoire. Quand il entre dans la synagogue de Nazareth, quand on lui remet le livre du prophète Ésaïe et quand il lit ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, il rappellera « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Et on parle de guérison, et on parle de liberté, de délivrance, de satisfaction, de contentement. On revient sur toutes ces formules-là. Et puis, il continue son discours. Parce que quand il dira « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie », tous qui rendaient de lui, malgré tout, vraiment témoignage, étaient tout de même un petit peu perturbés. Et il est dit ceci, Luc chapitre 4, verset 23. « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Quelque chose qui cloche pas. Ce n'est pas le Messie, c'est le fils de Joseph. Ce n'est pas le Messie, c'est un humain, c'est un homme. Mais qui est-il donc? Et là, Jésus leur répondra, « Sans doute, m'appliquerez-vous ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et écoutez ceci, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Alors on va revenir sur cette histoire, comme ça vous comprendrez mieux pourquoi Jésus en a reparlé. Que s'est-il passé? Eh bien, dans le premier livre des Rois, on trouve l'histoire. Premier livre des Rois, au chapitre 17, il est question de cette fameuse famine qui va durer pendant des années. Pourquoi donc une famine? Eh bien, tout simplement parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Et il est évident que plus vous vous éloignez de la source, plus vous risquez d'avoir soif, forcément. Plus vous vous éloignez du feu, du foyer, et plus vous risquez d'avoir froid. C'est obligé, c'est une logique qui, celle-ci, est implacable. Et on s'aperçoit que si aucun prophète n'était bien reçu chez lui, Jésus a subi le même sort en tant que prophète de Dieu. Il n'a reçu que le même sort. Et donc, Jésus va leur montrer que l'Évangile était pour eux, pour ces gens-là qui le rejetaient, mais l'Évangile était pour la terre entière. La preuve, à Sidon, dans le territoire de Sidon, à Sarepta, une femme qui n'était pas du peuple juif, qui était en grande détresse, a obtenu la grâce divine et a été bénie. Je crois que l'Évangile reste universel parce que Dieu est le Créateur. L'Évangile reste universel parce qu'on en a tous besoin. Et je peux dire, je pense que beaucoup pourraient confirmer cela, l'Évangile est universel parce qu'il n'y a rien de meilleur que cela. C'est le meilleur programme que l'on ait jamais proposé aux hommes. C'est la meilleure sortie de crise que l'on ait jamais proposée aux hommes. Dans le livre de Job, il y a quelque chose d'instructif de la part de cet homme qui a connu des moments difficiles et des moments d'épreuve. Il est dit ceci dans le livre de Job au chapitre 13 et au verset 20. Seulement, accorde-moi 2 choses. C'est Job qui parle à Dieu. Et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que les terreurs ne me trouble plus. Puis appelle et je répondrai, ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances et me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas? Pourquoi est-ce que Dieu serait une main pesante sur votre vie? Pourquoi vous punirait-il pour ce que l'on appelle des fautes de jeunesse? Il est évident que quelquefois les erreurs de jeunesse, on les a payées longtemps. Ouais, certains les ont payés toute leur vie. Les erreurs de jeunesse, j'aurais pas dû si j'avais su, mais bon, c'est fait, c'est fait. Alors faut-il supporter cela et faire avec jusqu'à la mort? Il n'y a pas une solution, il n'y a pas moyen de trouver un réconfort. À tous ceux qui ont faim et soif de justice, prenez instruction de ce qui s'est passé dans du temps d'Élie. Élie a été choisi par Dieu pour aller vers le roi Achab et dire au roi Achab, parce que tu as désobéi à Dieu et parce que tu t'es tourné vers les idoles, et en l'occurrence, le dieu, l'idole Baal, parce que tu t'es tourné vers cette idole-là, Dieu va te prouver qu'il est au-dessus de tes croyances et de tes idoles. Baal était reconnu comme le dieu du tonnerre, le dieu de la pluie. Alors Dieu dira à Élie, tu vas aller vers Achab et tu vas lui dire, il ne tombera plus de pluie sur la terre sinon à ma parole. C'était un défi directement lié à leur croyance. Puisque vous, vous adorez le dieu de la pluie, ben faites tomber la pluie maintenant, parce que moi je ferme le ciel. Et vous voulez que je vous dise, si Dieu ferme le ciel, il n'y en a pas beaucoup qui arriveront à le rouvrir. Hein. Vous savez qu'il y a des scientifiques, ce sont des études très sérieuses, qui ont essayé d'imaginer des stratégies, des méthodes pour faire tomber la pluie. On ne parle pas des Indiens. Hein. Pour faire tomber la pluie, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ils ont imaginé envoyer des espèces de fusées, de satellites, si vous voulez, mais qui iraient beaucoup moins haut, évidemment, et qui exploseraient à certains endroits où il y a des nuages qui ne se crèvent jamais, où la pluie ne descend pas. Il y a des endroits comme cela dans le monde où le ciel se couvre de nuages, mais la pluie ne tombe jamais. C'est comme ça, il passe par là, mais il ne s'arrête pas là. Donc, ils ont essayé plusieurs expériences pour faire tomber la pluie ou alors pour créer une espèce de froid et de chaud pour qu'il y ait une densité, que des nuages se forment instantanément et qu'il pleuve. Mais vous savez quoi? On n'y est pas encore arrivé. Et pourtant, la technique avance. Les ordinateurs sont quand même relativement puissants, mais on n'y arrive pas. Si Dieu décide de fermer le ciel, allez-y, ça ne marchera jamais. Et quand Élie a été vers Achab et lui a dit « Aucune pluie sinon à ma parole », le roi Achab a souri sur l'instant. Il a dit « Oui, oui, reviens l'hiver prochain, reviens l'été prochain, on verra. Une année sera passée, je suis sûr que la pluie sera tombée. » Un an est passé, 2 ans sont passés, 3 années sont passées, toujours pas de pluie. Évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver, inévitablement, c'est la famine. Si vous ne récoltez pas, vous ne semez pas. Et si vous ne semez pas, vous ne récoltez pas, etc. Et donc, pas de pluie, tout sèche sur plan. Donc, c'est la catastrophe. Et ça a été la catastrophe. Alors, pour protéger Élie devant cette calamité, Dieu l'a envoyé tout d'abord près d'un torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et là, il a eu à boire tant qu'il y avait de l'eau dans le torrent. Et puis le torrent s'est retrouvé à sec. Alors, 1 Roi chapitre 17, verset 8, « La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » C'est là que Jésus reprend ce texte. En disant qu'il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve étrangère, vers une veuve d'un autre pays, vers une veuve qui, elle, était plutôt du côté du Liban. Il a été envoyé vers cette femme pour, vous l'avez compris, bénir cette femme. Parce que si je lis, j'ai ordonné à une veuve de t'y nourrir, de te nourrir, tu vas rester là-bas, planqué pendant un moment, et puis à mon signal, tu reviendras dans le pays. Ce n'est pas la totalité de l'explication de l'histoire, puisqu'on va se rendre compte que cette femme va passer littéralement de la mort à la vie, elle va passer de la culpabilité au pardon, et elle va passer d'une forme de solitude à ce que j'appellerais l'amitié de Dieu. Dans un psaume, le 25 notamment, il est dit « L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. » L'amitié de Dieu est pour ceux qui vont lui faire confiance. L'amitié de Dieu est pour ceux qui vont s'attendre à lui. L'amitié de Dieu est pour ceux qui vont s'approcher de lui. L'amitié de Dieu. Connaissez-vous l'amitié de Dieu? Êtes-vous ami de Dieu? Avez-vous découvert en Dieu un ami? Cette veuve, on va y revenir, n'avait pas beaucoup d'espoir, sinon aucun. Et j'imagine que Dieu n'était pas son ami. elle ne le connaissait pas. Et si elle avait une certaine idée du ciel, de l'éternité, de la spiritualité, d'un quelconque au-delà, j'imagine qu'elle devait être passablement en colère, vu sa vie, vu son parcours, vu ce qu'elle avait vécu. Et c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. C'est parce qu'on est en colère, parce que c'est la famine, parce qu'on a faim et soif de justice et qu'on meurt de soif, parce qu'on a faim et soif de vérité et qu'on meurt au-dedans de soi, parce qu'on n'obtient aucun recours, aucune satisfaction. C'est peut-être à cause de toutes ces choses-là qu'on est dans la détresse. Mais je crois qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et voyez-vous, si Élie a été envoyé vers cette femme, ce n'est pas par hasard. Il y en avait des veuves certainement là-bas, mais ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, la première surprise, je ne sais pas si c'est cette femme ou si c'est Élie qui va la voir. Première surprise. Le texte dit, « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie a été surpris par le discours de cette femme. Cette femme a été surprise par la demande du prophète. En fait, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que il n'y a pas de hasard. Dieu dit à Élie, va là-bas, j'ai ordonné à une femme de veuve, à une veuve, de te nourrir. Comment vous comprenez la chose? Moi, je vais vous dire comment je la comprends. J'ai ordonné à quelqu'un là-bas de te nourrir. Moi, j'arrive à Sarepta et j'attends que la personne vienne me chercher. Dieu lui a ordonné de me nourrir. Dieu lui a ordonné de s'occuper de moi. Sauf qu'on voit déjà que ça ne s'est pas exactement passé comme cela. C'est plutôt le prophète qui voit cette femme qui arrive et révélation. Il comprend que c'est elle. Donc, il va vers cette femme et il lui demande de l'eau à boire. Dans un pays d'où il sortait, qui était accablé par la sécheresse, c'est pas mal de boire un coup quand même. Donc, il boit, il se désaltère et tout de suite derrière, il lui dit maintenant, apporte-moi du pain. Et là, on comprend que Dieu a ordonné à cette femme de nourrir le prophète, mais visiblement, la femme, elle n'est pas au courant. Et visiblement, le prophète comprend rapidement que la femme, elle n'est pas au courant. Alors Dieu a ordonné. Est-ce qu'il s'est trompé de personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique là tout de même? Ceci étant, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est que cette femme, elle va quand même accepter de le faire. Ça, c'est très surprenant. Quand je dis qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, à tous ceux qui ont faim et soif de justice, la Bible dit que Dieu a tracé des voies droites et l'homme a choisi des chemins tortueux et détournés. Avec Dieu, en général, c'est clair. C'est très clair. Avec Dieu, c'est très simple. Pourquoi avec nous, c'est si compliqué? Vous savez-vous pourquoi? Des fois, je me demande pourquoi je suis si compliqué. Je pense que d'autres se le demandent aussi. Quand ils me voient faire, ils doivent se dire, mais pourquoi il est si compliqué? C'est bizarre, hein? Pourquoi on est si compliqué? Mais en fait, c'est juste parce qu'on est tordu et en fait, quand on veut voir droit, on est un peu penché, donc en général, ce qu'on voit, c'est jamais très droit. C'est pour ça. Ouais. Dieu a fait des voies droites, on a choisi des chemins détournés. C'est très curieux, cela. Quand Élie s'approche de cette femme, il va se rendre compte que cette femme, finalement, elle est complètement désespérée. Elle n'a aucun avenir, hein? D'ailleurs, son avenir, elle n'en voit pas du tout. Elle n'a aucune solution. Je crois que cette femme ne veut pas mourir, mais je crois que cette femme est persuadée qu'elle va mourir. Elle ne veut pas mourir, mais elle ne voit pas de solution. Vous avez vu ce qu'elle dit au prophète? Écoute, du pain, non, désolé, je t'ai donné à boire, ça je pouvais, mais du pain, certainement pas, j'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile, regarde, je suis en train de ramasser quelques bouts de bois, je rentre à la maison, je pétris ma pâte avec mon fils, on se partage le morceau qui en sortira, et jusqu'au dernier bout, on mangera les miettes, et puis on attendra la mort. Que c'est triste, que c'est triste. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas plus d'espoir que cela. On en a entendu parler parce qu'évidemment, On entend parler de tous les problèmes des Français, surtout quand il y a des enjeux comme ces derniers temps. Mais quel drame quand on entend que presque tous les jours, sinon toutes les semaines, des agriculteurs se suicident. Ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas. Mais il faut être à ce point désespéré. Ce n'est pas forcément des personnes âgées, hein. Forcément des gens qui veulent vivre, ils n'y arrivent plus. Quand on regarde le rapport, je lisais la semaine dernière que toutes les 10 minutes, là actuellement, un enfant meurt de faim au Yémen. Toutes les 10 minutes, ça veut dire que là, à la fin de l'heure, il y en a 6 qui seront morts encore. Et ça durera l'heure d'après, l'heure d'après, l'heure d'après, l'heure d'après, sans compter les bombardements et tout le reste. On se rend compte qu'il y a énormément de désespérance et beaucoup de gens ne veulent pas mourir. Mais ils sont persuadés qu'ils n'ont aucune solution et qu'ils finiront par mourir. À tous ceux qui ont faim et soif de justice, je voudrais dire cet après-midi qu'il existe une solution. Elle existe. Elle est là. Vous remarquerez que pour cette veuve, la solution est venue de loin quand même. Hein. Elle est venue de loin. Hein. Elle n'a pas envoyé un courrier à monsieur le prophète Élie qui se trouve du côté du Carmel. Vous ne voulez pas venir me rendre visite, j'ai un fardeau, j'ai un problème. Elle ne s'est pas adressée à un médiateur céleste. Il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait faire monter ma requête jusqu'au ciel. Elle n'a pas imaginé comment elle pourrait sortir de cette situation-là, mais Dieu l'avait prévu. Il n'y a pas de hasard. Dieu voulait bénir cette femme. Faim et soif de justice. Il voulait consoler cette femme. On a parlé de ses béatitudes, on a parlé de contentement, d'héritage, de consolation, de paix, de bonheur. Et tout cela est inclus dans une grâce et une bénédiction que Dieu nous accorderait. Alors, elle ne peut pas. C'est assez incroyable. Et je crois qu'on ne peut pas opposer le hasard à la fatalité, parce que ce serait terrible d'ailleurs de faire cela. Mais je crois qu'on ne peut opposer qu'un projet en face de la fatalité. Ça ne va pas. Ne mettez pas en face de « ça ne va pas ». Le hasard, ben c'est comme ça. Que voulez-vous? Je suis né sous la mauvaise étoile. Si j'étais né sous l'étoile juste à côté, ça aurait été mieux. Non, je crois qu'il y a encore des projets possibles avec Dieu. Sans Dieu, je vous l'avoue que c'est difficile. Sans Dieu, je vous l'accorde. Je ne sais pas trop comment on peut faire. Mais je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, il y a une solution. Il y a quelque chose qui devient possible. Il suffirait juste d'une parole encourageante. J'aimerais vous donner une parole encourageante cet après-midi. Il suffirait juste d'une parole qui vienne de Dieu, comme une promesse. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront consolés, ils seront bénis. Quand cette femme dira à Élie, je n'ai rien, un peu d'huile, un peu de farine, je ramasse un peu de bois, on va manger cela avec mon fils et on va mourir. Regardez la promesse que lui fait Élie. Élie lui dit, verset 13, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ça, on appelle ça une promesse, non? Oui ou non? On appelle ça une promesse. C'est certain, c'est une promesse. Ne crains pas, fais comme tu as dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Fais comme tu as dit, mais prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord ce que je t'ai demandé. Il faut faire un acte de foi. Il faut être animé d'un élan de foi. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez eu un élan de foi? Pas une crise de foi. Un élan de foi. Ça remonte peut-être à très loin, très loin. Cette femme, on peut l'avouer, elle a tout pour ne pas avoir la foi. Là, au moment où le prophète lui dit cela, elle a programmé un petit peu comment elle allait faire des choses. Elle n'a pas l'air folle, juste découragée, juste déprimée, juste abattue, juste désespérée. Allez faire un élan de foi quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes désespéré. Allez-y, sautez dans le vide. Quand vous vous dites, c'est fini, ma vie, elle est fichue, il n'y a rien de possible, elle va faire un acte de foi. Cette femme va faire quelque chose qui, à mon avis, est complètement insensé. Elle va précisément opposer la raison et la logique aux croyances et aux défis. Pour quelqu'un qui raisonne, je sais ce que j'ai à la maison, je sais ce que ça va faire, je sais comment je vais pétrir ma pâte, etc., ce que je vais en récupérer. Donc à boire, je t'en ai donné parce que de l'eau, j'en avais. À manger, je t'en donnerai pas parce que c'est pour moi, c'est pour mon fils, et après on meurt. Elle n'est pas bête, cette femme. Seulement opposer un défi, la croyance ou la foi avec la raison, c'est complètement insensé. Humainement, c'est insensé. Quand l'apôtre Pierre dira aux boiteux du temple, « Je n'ai rien, pas d'argent, pas d'or, boiteux de naissance. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il faut opposer la raison, la logique avec le défi, hein, avec la foi, avec la croyance. Il a fallu le prendre par la main, mais cet homme s'est redressé et la Bible dit qu'instantanément ça a dû craquer dans les chevilles parce que les chevilles devinrent fermes. Il n'avait jamais marché de sa vie, vous imaginez ? Il est entré dans le temple en sautant et en louant Dieu. C'est extraordinaire quand même. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Quand Dieu fait quelque chose, c'est instantané. Quand Dieu fait quelque chose, c'est totalement miraculeux. Cette femme avait besoin d'être encouragée. Et pourtant, l'Éternel n'est pas son Dieu. Hein. D'ailleurs, on va y venir. Au verset 12, quand Élie lui dit « Prépare-moi d'abord à manger », cette femme va lui dire « L'Éternel, ton Dieu ?» est vivant. Tu as un Dieu, toi. Eh bien, moi, j'en ai pas. Puisque je vais préparer à manger, je vais mourir. Si mon Dieu était vivant, il s'occuperait peut-être de moi. Il va y avoir un changement dans la vie de cette femme parce que cette femme va réaliser, mais elle ne le comprend pas encore. Hein. Mais le prophète veut lui faire réaliser, et si Dieu se souciait de toi, dans le fond ? Toi, tu dis que Dieu ne se soucie pas de toi. Mais si moi je te disais que Dieu a du souci pour toi, si je te disais que Dieu a de la peine pour toi, dans ce sens qu'il a de la compassion, il veut te bénir, il veut te faire du bien, et si je te disais que tu n'es pas inconnu au registre du ciel, si je te disais que tu existes, ça tu le sais, mais tu existes même sous le regard de Dieu, et si Dieu te connaissait, et si Dieu avait entendu tes larmes, et si Dieu voulait répondre à ta faim et soif de justice. C'était peut-être le moment, et là, il y avait une seule façon de le savoir, c'était de faire l'acte de foi. Eh oui, le seul moyen de le savoir. Vous voulez savoir si Dieu vous aime, faites-lui confiance. Vous voulez savoir si Dieu va s'occuper de vous, va régler vos problèmes, donnez-lui les clés, donnez-lui le volant, si vous voulez savoir s'il va faire quelque chose. Si vous le gardez vous-même et que vous lui demandez de faire quelque chose, vous l'empêchez de faire quelque chose. Laissez-le faire. Laissez-le agir. Et cette femme a fait un élan, un acte de foi, elle a eu un élan de foi tout à fait extraordinaire. C'est qu'à partir du moment où le prophète lui a dit ce que je viens de vous lire, rien ne manquera, et jusqu'à ce que la pluie tombe à nouveau, la Bible dit verset 15, qu'elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment il l'a dit, en quelle langue il lui a dit ça, mais elle a été persuadée, la conviction de l'esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La Bible dit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Vous savez combien de temps ça a duré, ça ? Combien de temps ça a duré ? Que Élie a habité chez elle et que la farine n'a pas diminué et l'huile n'a pas diminué. Vous savez combien de temps ça a duré ? Non, vous ne savez pas ? Moi non plus. Mais je pense que ça a duré un bon moment. Ouais, je pense que ça a duré un bon moment. Ça a duré 3 ans et demi la farine, la famine, la sécheresse. 3 ans et demi. Il s'est rendu au torrent de Kérit, mais sans pluie. Tout torrent, à un moment donné, est à sec. Quand on voit que dès qu'arrive l'été ici, c'est rapidement à sec, malgré qu'il ait plu. Donc je pense qu'on peut aller compter bien des mois. Hein. Ça ne vous dirait pas, ça ? Vous prenez de la farine, hop, il y en a toujours autant. Il y en a toujours autant. Il n'y en avait pas plus que pour faire le repas de cette pauvre maman avec son fils. Hein. peut-être pas un gros repas, puisqu'elle n'était même pas prête à partager. Et puis, jamais, 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 ça n'a diminué, parce que Dieu l'avait dit. Ce n'est pas parce que le prophète l'avait dit, ce n'est pas parce qu'un homme l'avait dit, mais parce que c'était le programme de Dieu. C'était le programme de Dieu. En fait, on pourrait arrêter là le récit, mais le récit ne s'arrête pas là. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, me semble-t-il. Parce que vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il le fait en profondeur. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Bref, il meurt. La femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Ça, c'est intéressant. En fait, voilà un secret de famille qu'ils n'avaient pas abordé ensemble. Et tout d'un coup, il y a un secret qui se fait jour. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que cette iniquité qui rappelle le souvenir de l'iniquité et qui justifie cela en faisant payer le fils, en le faisant mourir. Mais ça me rappelle le texte de Job que je vous ai lu tout à l'heure. Pourquoi te souviendrais-tu de mes erreurs de jeunesse ? Pourquoi me jugerais-tu sur mes erreurs de jeunesse ? Veux-tu me faire mourir à cause de cela ? Me punir pour des fautes de jeunesse ? Non. Dieu pardonne, il ne punit pas. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous punissons à cause de nos fameuses erreurs. Mais Dieu justifie, Dieu pardonne. Quand Élie va comprendre cette situation, il ne sait pas trop quoi dire. Alors, il dit à cette femme, « Donne-moi ton fils !» Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il le coucha sur son lit, puis il invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Quelque part dans sa prière, il aura oublié que Dieu l'avait envoyé chez cette femme parce qu'il avait ordonné à cette femme de le nourrir. En fait, Dieu avait décidé de guérir cette femme intérieurement aussi. Pas que extérieurement, pas que physiquement. Il fallait qu'elle soit guérie à l'intérieur. Et manifestement, il y avait quelque chose qui pesait, une forme d'inquiétude, allez savoir, en tous les cas, tout ce qui arrivait pouvait être analysé comme juste rétribution, juste jugement, j'ai commis des erreurs, je paye maintenant. On en a l'explication avec ce fils qui meurt. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu, et heureusement. Alors le prophète va prier pour cet enfant, et la Bible dit au verset 22, « Que l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. » Et il appelle la maman prit l'enfant, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Et j'aime beaucoup, c'est la fin de l'histoire. Ce que cette femme dira, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et je dis, amen. C'est pour vous dire que jusqu'à présent, elle a été nourrie miraculeusement. L'huile n'a jamais diminué, la farine n'a jamais diminué, mais le Dieu d'Élie, ce n'est pas son Dieu. La parole qui a été prononcée, c'est une parole incroyable. D'où ça vient, on n'en sait trop rien. Mais tant mieux, on en profite. Mais de grâce, Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. On n'appuie pas sur la demande et on ne tire pas sur la poignée pour obtenir une bénédiction. Dieu, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est celui qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. » Cette femme a gravi une marche de plus, et finalement elle a trouvé la guérison de l'âme, la guérison intérieure, comme la délivrance physique. Parce que du moment où elle disait « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien à manger, tu te débrouilles. Si ton Dieu est vivant, qu'il s'occupe de toi. » Pour arriver à la fin de ce récit, je reconnais maintenant que toi tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche, la parole de ce Dieu-là dans ta bouche, c'est la vérité. Plaise à Dieu que cet après-midi, vous trouviez en Dieu la vérité, le meilleur des programmes, le programme efficace, celui qui se déroule sans anicroche, qui se déroulera jusqu'à la fin ainsi. Vivre dans la peur d'être rattrapé par ses fautes, vivre dans l'angoisse de tout perdre, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement vivre ça. qu'est-ce qui se passait dans son cœur. On ne sait pas quel a été son parcours, on ne sait pas quelles étaient ses croyances. En tous les cas, elle avait besoin de paix. Et vous voulez que je vous dise, elle avait besoin de justice divine. Aujourd'hui, quand le monde autour de nous parle de justice divine, c'est toujours un cataclysme. C'est la justice divine, c'est toujours une catastrophe. Avec Dieu, la justice divine, c'est la croix. C'est la croix. C'est là où Jésus est mort. C'est fait. C'est là où Jésus a donné sa vie. Et aujourd'hui, la justice divine, c'est la réconciliation, c'est la consolation, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, c'est de pouvoir quitter ce lieu en disant « Je suis heureux maintenant. » Alléluia. Je suis heureux. Faites la paix avec Dieu. Elle reconnaît la suprématie de Dieu. Reconnaissez la suprématie de l'œuvre de la croix, du calvaire. Reconnaissez cela sur votre vie et soyez bénis. L'Éternel est là pour vous bénir, il est là pour vous faire du bien. Repartez avec cet avantage d'avoir la foi et cet avantage certain de vous être confié en Dieu. Vous ne le regretterez jamais. Amen.